À la fin de cette section de 1 Timothée chapitre 2, que peut-être les dames ont lu, nous avons lu autre chose, mais bon. On va bientôt attaquer le chapitre 3 qui parle de la qualification des anciens, mais on veut terminer quand même et conclure vraiment cette partie du chapitre 2. On était sur les versets 11 jusqu'au verset 14 la dernière fois. Donc on va parler un petit peu du verset 15 et surtout conclure tout cet aspect le statut de la femme dans l'Église. Alors peut-être on va commencer un petit peu différemment. Peut-être je vous ai pas envoyé de questions parce que j'ai pas eu le temps de travailler des questions comme si c'était que sur pratiquement le verset 15. Travailler des questions, j'en avais écrit quelques-unes et puis finalement j'ai dit non, peut-être je vais pas envoyer. Mais bon, mais peut-être que vous avez des questions à propos de ce que nous avons dit ou des remarques à propos de ce que nous avons dit jusque-là. Des choses qui n'ont pas été claires. Peut-être j'ai pu dire quelque chose et puis vous avez pensé autre chose. Hein. Je ne veux pas dire plus que ce que la parole de Dieu dit. Vous savez, quand on dit des choses, parfois on peut dire un peu différemment. Donc, peut-être vous avez des questions. Alors moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est la suivante. Est-ce que vous pensez que, quand même, dans l'interdiction que Paul fait ici au verset 11 et 12, qu'il s'agit bien d'une interdiction, hein, on avait considéré ça, aux femmes, c'est quelque chose qui est formel, je sais pas, et vraiment formel, quoi. C'est-à-dire, voilà, ça doit être comme ça. Et que ça ne tient pas compte, ou que ça ne tient pas compte du contexte culturel, des circonstances. Est-ce que vous êtes convaincu par cela, ou est-ce que vous pensez plutôt que quand même ça a quand même certainement une connotation un peu culturelle, un peu circonstanciée, ça qu'on dit? Après tout ce qu'on a dit, hein, j'aimerais bien savoir. Oui.
La l'air
formelle. Oui. D'accord. Oui. D'accord. Oui, on avait dit que le chapitre 3, bon, quelle est la raison d'être de ce que Paul écrit ici? Hein, dans le chapitre 3, verset 15, on a la réponse. Hein. Il dit quoi? Il dit, si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Donc ça, c'est vraiment, on parle de l'ordre dans la maison de Dieu. Donc c'est quelque chose qui concerne quoi, principalement? Donc l'Église. Voilà. Et puis, est-ce que ce qui concerne l'Église, c'est lié vraiment à une circonstance, ou est-ce qu'on peut dire quand même, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, il dit « c'est ainsi que je dis dans toutes les églises », quelque chose comme ça, hein, c'est ainsi qu'il enseigne dans toutes les églises. Donc, il montre effectivement que c'est quelque chose de formel auquel il faut se tenir ici. Et ce n'est pas quelque chose qui est propre, qui doit seulement être considéré pour l'Église d'Éphèse, même si la recommandation qu'il donne trouve son contexte dans l'Église d'Éphèse, d'accord, et qu'il y a certainement des problèmes particuliers liés à cette problématique-là, une situation liée à cette problématique de prise de parole, etc., de position relative des hommes et des femmes dans l'Église, même si ça trouve son ce qu'il dit prend sa source ici, mais on doit le considérer comme quelque chose qui est intemporel. Mais pourquoi est-ce qu'on le considère comme quelque chose qui est intemporel, selon vous? Qu'est-ce qui fait que on considère certaines choses comme temporelles et puis d'autres comme intemporelles? Est-ce que, par exemple, l'apôtre Paul dit au verset, chapitre 1 Timothée, chapitre 2, il dit, c'est ça, c'est là qu'il dit ça, je pense. Attendez, verset 8. Il dit, je veux que les hommes prient en tout lieu en élevant les mains pures. Voilà. Est-ce que c'est un commandement formel? Est-ce que vous, les hommes, vous allez en tout lieu, que vous élevez les mains pour prier? Tout lieu. C'est quelque chose que l'on fait comme ça, hein? Textuellement, hein? Je veux dire, non, dans le principe, on comprend ce que ça veut dire. Hein? L'attitude de cœur, de ne pas avoir de choses sur les mains, comme on dit. On doit pouvoir prier en tout lieu. Mais à l'époque, bon, quand les Juifs priaient, des fois, ils pouvaient élever les mains vers le ciel, d'accord, quand on priait. Donc, ce que je veux vous dire ici, c'est qu'il y a des choses que l'on peut dire, ça, il faut faire exactement comme ça. Et on peut pas déroger à cela. Et puis, il y a des choses... on comprend dans le principe ce qu'il faut, hein, ce qu'il faut faire. Ici, hein. Et puis il y en a d'autres, il faut absolument les faire. Alors qu'est-ce qui fait que dans ce texte que nous avons lu, on considère que, par exemple, l'Écriture interdit l'enseignement type je veux dire, prédication, pasteur d'église, ancien, parce qu'après, l'apôtre Paul parle des anciens. Et c'est intéressant de voir que tout de suite après, il parle des qualifications des évêques dans ce qu'il dit. Et donc, on continue. Hein. Qu'est-ce qui fait, selon vous, dans ce que nous avons lu, que ça, c'est quelque chose qui est intemporel? Oui. Voilà. Oui, c'est ce que Paul dit, hein, c'est ça. Donc, il dit que, ce qui fait, c'est qu'il va soutenir ce qu'il dit en le plaçant, non pas comme sa préférence, il ne dit pas, voilà, c'est comme ça qu'on doit faire, c'est comme ça que je vois les choses, mais il va placer cela dans le cadre de la... Comme, il va prendre la création comme fondement, ce que Dieu a fait avant même la chute. Et il dit que voilà... L'ordre que Dieu a établi, on ne va pas refaire tout ce qu'on a dit la semaine dernière, mais il dit voilà l'ordre que Dieu a établi. Le fait qu'il ancre les choses dans la création, ça donne la dimension du commandement. C'est ce que Jésus a fait quand les Juifs lui avaient parlé du divorce, vous vous rappelez, hein? Il a dit, qu'est-il écrit au commencement, le Créateur, voilà comment il a fait les choses. Et il dit, voilà quel est... le point de vue de Dieu sur le mariage. D'accord? Que l'homme ne sépare point ce que Dieu a joint. C'est comme ça qu'il termine. Hein? Après, il dit, ah, Moïse vous a donné quelque chose à cause de la dureté de votre cœur. Mais il dit, voilà l'ordre que Dieu a établi d'une manière ferme. Donc, ici, c'est important pour nous de considérer la chose comme l'Écriture la considère. C'est-à-dire qu'elle place le commandement, l'interdiction qui est au verset 11 et 12, il place sous vraiment le socle, si on veut, sur le fondement de ce que Dieu a fait à la création, de l'ordre que Dieu a établi à la création. Et puis on avait dit que il montre aussi que deuxième, il utilise deux choses. Et puis au verset 14, il dit Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Et donc il montre ici que le diable s'est adressé d'abord à Ève et que Ève a eu quelque part la première place. C'est comme si elle avait, on le dit cela, elle exerçait le leadership dans cette situation, et donc en violant par là l'ordre que Dieu avait établi. Quand on viole l'ordre que Dieu a établi, on va toujours au-devant de désastre. Ce que je voudrais souligner, hein, parce qu'il y a des gens qui disent ça, je crois que je l'ai dit, mais peut-être en passant vite, j'ai lu il n'y a pas très longtemps une discussion entre... une grand-mère et son petit-fils, qui est de théologien, hein, donc, et son petit-fils la reprenait sur le fait, parce que cette femme était pasteur d'une église à Paris, hein, il y a longtemps. Et c'était intéressant, parce qu'on voit dans l'argumentation de la grand-mère, elle, elle dit que Dieu a utilisé, Dieu peut utiliser qui il veut, Dieu peut douer qui il veut, c'est vrai. Et Dieu fait des, il y a eu des bénédictions, etc. Les femmes sont aussi instruites que les hommes, elles sont aussi capables que les hommes d'enseigner, etc. Et est-ce que la Bible ne dit jamais quelque part que la femme n'est pas aussi capable intellectuellement que l'homme de le faire? Et je crois même, qu'elle est bien souvent plus capable intellectuellement de le faire. Parfois, je pose à ma femme des questions, de le faire. Mais là n'est pas la question. Ce n'est pas une question de capacité intellectuelle. D'accord? C'est une question de soumission à ce que Dieu dit. Ce que l'apôtre Paul souligne ici. Il dit pas que voilà. Et donc, les gens qui avancent, que culturellement, maintenant, la femme, elle a fait des études. Avant, elle faisait pas des études. Maintenant, elle a fait des études. Elles sont PDG d'entreprise du CAC 40, etc. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais, c'est pas ce que l'on traite ici. La Bible traite de l'ordre que Dieu a établi. Et Dieu est un Dieu, on avait dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, je me rappelle plus la référence exacte, mais que Dieu est un, 37 peut-être, je pense, Dieu est un Dieu d'ordre, d'accord, et de Dieu de paix et non de désordre. Et il est bon pour chaque enfant de Dieu de marcher dans l'ordre que Dieu a établi. L'ordre que Dieu a établi, ce qu'il y a de meilleur pour chacun d'entre nous. Et je le redis parce que je voudrais que ça reste vraiment dans notre cœur, dans notre pensée. Ce qui sera meilleur pour nous, toujours le meilleur, c'est de se soumettre à ce que Dieu a fait. Tout à l'heure, on a lu le psaume 104, et les hommes, on n'a pas lu Timothée chapitre 2, mais on voit que quand Dieu a créé les choses, la Bible dit que le soleil sait quand il doit se coucher. Et c'est extraordinaire, ça veut dire que Dieu a fait les choses, mais chaque astre, chaque personne devrait savoir exactement ce qu'il a fait parce qu'il a tout ordonné. C'est un Dieu qui a tout fait avec ordre. Et on doit se plier fondamentalement à cet ordre-là. Donc ce que Paul dit ici, il ancre donc ça dans la création et il dit qu'Adam n'a pas été séduit, mais Ève a été séduite. Donc il montre qu'elle s'est rendue coupable de transgression. Et quand on contourne l'ordre que Dieu a établi, eh bien voilà ce à quoi on doit faire face, c'est vraiment le désordre et puis la transgression, le péché. C'est comme ça que le péché est entré. Alors la Bible dit que c'est par l'homme que le péché est entré dans le monde. C'est vrai parce que l'homme est responsable. Mais il fait ici, l'apôtre Paul souligne néanmoins que c'est la femme qui a été séduite parce que l'ordre que Dieu a établi n'a pas été respecté et observé. Et il ajoute au verset 15, ici, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Donc ça, c'est, disent les spécialistes, l'un des versets les plus difficiles de la Bible. Parce que c'est vrai, quand on lit cela, je ne sais pas ce que vous avez pensé quand vous lisez cela. On n'a pas le temps d'écouter ce que tout le monde dirait ici, mais comment quelqu'un vous poserait une question là-dessus? Qu'est-ce que vous diriez sur ce verset? Et les spécialistes ne sont pas tous d'accord là-dessus. Mais bon, le verset 15 est ce qui c'est pas la deuxième partie du verset qui est la plus difficile, c'est surtout là. La première, où il dit, elle sera sauvée en devenant mère. Et la question qu'on se pose, c'est que qu'est-ce que ça veut dire, sauver ici? Quel lien entre le fait d'être sauvé et de devenir mère, ici? Et puis, de qui est-ce qu'il parle ici, dans le « elle » ici? Est-ce qu'il parle de la femme en général? Est-ce qu'il parle d'une femme en particulier? Alors, c'est pas très évident. Je vais vous lire quelques interprétations que l'on peut trouver qui donnent parfois soit au mot sauver un sens ou un autre ou au mot elle un sens ou un autre. Par exemple, on peut lire que les femmes seront alors sauvées. Le mot peut avoir le sens de sauver, délivrer du salut. Donc on pourrait parler du salut spirituel, mais il peut avoir le sens d'être en sécurité, d'être préservé aussi. Et donc, il y a des gens qui pensent que ça pourrait dire cela. Donc, les femmes seront en sécurité physiquement, donc préservées et sauvées tout au long de l'accouchement malgré la malédiction de la chute. D'accord? Vous voyez dans Genèse chapitre 3, verset 16, il y a la malédiction que Dieu prononce quelque part, hein, une condamnation en disant que les grossesses se passeront avec souffrance, etc. Bon, le problème, c'est que ce n'est pas vrai que toutes les femmes sont sauvées à travers l'accouchement. Il y a des femmes qui sont décédées quand elles ont donné naissance aux enfants. Une deuxième interprétation qu'on trouve, c'est que les femmes sont sauvées spirituellement, donc cette fois-ci le mot sauvé gardé dans son sens spirituel, à travers l'accouchement, à savoir la naissance de Christ, donc qui est la semence de la femme qui apportera le salut à la race humaine. Donc ça c'est un peu, je pense, ce que retiennent certaines traductions. D'autres disent par exemple que les femmes seront préservées de l'insignifiance et trouveront un épanouissement en mettant au monde des enfants. Mais bon, on dit que c'est un peu un sens inhabituel pour le mot sauvé ici, qui quelque part a pratiquement dans les épîtres, comme c'est la qu'on appelle les épîtres pastorales, hein, toujours le sens d'être sauvé du péché. Hein? C'est un mot qui est relativement fort, et il semble que l'apôtre Paul ne l'a jamais utilisé autrement que dans ce sens-là. Dans tous les écrits de Paul, on ne trouve pas. Au sens que donc la difficulté vient du fait qu'on a à la fois sera sauvé en devenant mère, c'est-à-dire que la maternité avec le salut, et donc parfois on a eu tendance à diminuer le sens du salut pour pouvoir l'adapter un peu au moins à la maternité, parce qu'on voit pas, bien sûr il est évident que l'on n'est pas sauvé, d'accord, le salut de l'âme en mettant au monde des enfants. On est sauvé par la grâce au moyen de la foi. La Bible insiste là-dessus. Il n'y a aucune œuvre à faire pour être sauvé. Donc, et la femme et l'homme sont sauvés de la même manière par la foi. D'ailleurs, regardez à la fin du verset 15, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit ? Si elle persévère avec modestie dans la foi, elle sera sauvée ainsi. Bon. Donc le mot sauver ici donc doit être pris dans son sens fort, hein, parce que comme je l'ai dit, hein, l'apôtre Paul ne l'utilise pas nulle part ailleurs autrement que dans ce sens-là. Et puis d'autre part, on pourrait dire que la proximité avec ce qu'il vient de dire au verset 14, qu'est-ce qu'il dit au verset 14? Il dit n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Il parle du péché, du fait de transgresser. Et donc, quand il emploie tout juste à côté le mot salut, hein, on peut penser qu'il y a un lien avec cette question de la transgression et du salut, donc le péché du salut de l'âme. C'est difficile de passer de cette transgression du péché à juste être gardé physiquement, parce qu'on va mettre au monde un enfant. Vous voyez, donc c'est un petit peu là qu'on insiste sur ce sens-là. Donc la proximité avec quelqu'un a dit voilà, la transgression coupable, hein, milite pour un sens spirituel du salut qui est prononcé ici. Alors deuxième chose, qui est cette personne qui sera néanmoins sauvée? Certains ont avancé qu'il s'agissait de la femme en général. Elle sera préservée, par exemple, en donnant la vie. Si on lit le texte dans l'original, il y a une chose qui frappe, c'est que on ne voit pas dans notre traduction, ça se voit pas, mais il y a un singulier et puis un pluriel. Il y a un singulier au début de la phrase, donc ça dit, par exemple, Darby l'a traduit comme ça, tient compte de cela, il dit, car Adam a été formé, je lis depuis le verset 13, hein, car Adam a été formé le premier, puis Ève, et Adam n'a pas été trompé, mais la femme, ayant été trompée, est tombée dans la transgression. Mais elle sera sauvée en enfantant. Ça, c'est le singulier. Si elle, au pluriel, persévère dans la foi, dans l'amour et la sainteté avec modestie. Donc, il semble que dans le texte original, il y a ce côté pluriel d'un côté et puis ce côté singulier. Et la traduction de la Bible Semeur a pris fait et cause pour cela, l'a mis en évidence en traduisant comme ça. Il dit, ce n'est pas Adam qui a été détourné de la vérité, c'est la femme. Et elle a désobéi au commandement de Dieu. Mais elle sera sauvée grâce à sa descendance. Donc là, on est déjà un peu dans l'interprétation, hein, grâce à sa descendance. Et puis, point, et quant aux femmes, elles seront sauvées si elles persévèrent dans la foi, dans l'amour et dans la vie, dans une vie sainte en gardant en tout le sens de la mesure. Hein. Voilà comment donc c'est traduit ici. Donc, si on considère le début, on pourrait dire que la personne dont il est question ici, on pourrait penser que c'est Ève. Hein, parce qu'il vient de parler de Ève, il dit elle a été, elle a chuté et puis elle a été coupable de transgression, et puis il y a un contraste ici, mais elle sera sauvée en devenant mère. Et je pense que si on garde le sens de semeur, ça donne un petit peu le sens qui à mon avis, hein, tout le monde ne partage pas, mais et celui qu'on pourrait retenir ici, c'est-à-dire elle sera sauvée grâce à sa descendance. Parce que comment Ève a été sauvée spirituellement? Grâce à... Personne n'est sauvé autrement que par la foi en Jésus-Christ. D'accord? Personne n'est sauvé autrement que par la foi en Jésus-Christ. Même dans l'Ancien Testament, c'est dans la promesse... La venue du Messie, hein, que les gens, Abraham a cru et cela lui fut imputé à justice, est-il dit, hein, mais il a cru, hein, il a cru et Jésus lui-même a dit à Abraham, il a cru en mon jour, quelque chose comme ça, il dit, hein, et il s'est réjoui. Hein, et je crois qu'il est passé exactement dans ce terme-là qu'il le dit, mais il parle qu'Abraham, il a vu mon jour, quelque chose comme ça, il a vu mon jour et il s'est réjoui. Donc on voit déjà que c'est toujours en Christ qu'on a sauvé. Lorsque Jésus parle avec les disciples d'Emmaüs, qu'est-ce qu'il leur dit? Et la Bible dit qu'il leur raconte, il commence par les psaumes, et puis par Moïse, et il parle de quoi? De tout ce qui le concerne. Donc il montre que les psaumes et même Moïse, c'est-à-dire donc toute la loi, etc., parlent de choses qui le concernent, parce que c'est lui dont il est question. Et on peut dire aussi que Ève, comme Marie, donc par qui est venu le Sauveur, hein, sont aussi sauvées par Jésus-Christ. Et donc, si vous voulez, ce verset, donc là, je pense qu'il fait référence à ce qui est écrit dans Genèse chapitre 3, versets 14 et 16, que je vais lire. Il est dit, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit. Entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses et tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Et donc on peut dire que Paul a peut-être en tête la promesse que Dieu fait ici en Genèse 3:15 que nous avons lu. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, mais celle-ci t'écrasera la tête. Donc il est question ici d'une postérité, d'une descendance, on peut dire. Hein. Et donc une descendance qui vient de la femme, c'est une descendance qui vient par l'enfantement, ce qu'on appelle ici l'incarnation, hein. Et que celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras, dit-il, le talon. Donc la malédiction, si vous voulez, de Genèse 3:16, qu'on pourrait retrouver dans Genèse 3:16 qui dit j'augmenterai la souffrance de tes qu'est-ce que je vois ce que j'ai dit ça c'est au verset 16, c'est après, voilà. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses et tu enfanteras avec douleur. On peut dire que cette condamnation, cette malédiction est quand même quelque part abolie par cette perspective de cette promesse à venir qu'au travers de la femme, eh bien, naîtra le Messie. Okay? Et donc, je pense, c'est la meilleure compréhension que j'ai pour l'instant de cette section-là, qui est quand même assez difficile, que ça fait référence ici à probablement ce que Moïse dit en Genèse, puisque l'apôtre Paul, il est sur Genèse avec la création, avec la chute, et tout de suite avec le salut, ici. Donc, on peut penser que ça fait partie de tout cela. Et puis, il ajoute, ici, pour le reste des femmes, que même si elles ne peuvent pas enseigner et prendre de l'autorité dans l'Église, elles ne peuvent pas être anciens, ne peuvent pas être pasteurs, parce que Dieu l'interdit, et moi c'est ce que je crois, Dieu l'interdit, eh bien, il dit, je lis dans la version Semeur encore, « Quant aux femmes, elles seront sauvées si elles persévèrent dans la foi, dans l'amour et dans la vie sainte en gardant en tout le sens de la mesure. » Elles sont sauvées par la foi comme tout le monde, mais il veut dire ici que celles qui marchent d'une manière obéissante, dans la modestie, soit dans le côté des tenues ou soit dans la prise de parole, dans le fait de rechercher cette autorité, cette prise d'autorité, et qui montre cette vie saine dans cette soumission, eh bien, témoigne vraiment que la vie de Christ vit en elles et elles sont ainsi sauvées. On n'est pas sauvé par les œuvres que l'on accomplit, mais les œuvres que l'on accomplit, la soumission que l'on a à la parole de Dieu montre que l'œuvre de l'Esprit agit en nous. Et donc, on est sauvé aussi quelque part hein, par le fait, par Jésus-Christ, par la foi en Jésus-Christ, bien sûr, mais cette foi en Jésus-Christ se manifeste par une vie d'obéissance dans laquelle la femme ne cherchera pas à s'émanciper, de ce que Dieu a prévu pour elle, et l'homme ne cherchera pas non plus à se dérober à ce que Dieu a prévu aussi pour lui comme responsabilité. Les deux ne doivent pas abandonner leur responsabilité. Et c'est ce que l'on voit dans le monde aujourd'hui, c'est que les deux abandonnent leur responsabilité. L'homme abandonne sa responsabilité de dans le foyer, parfois même dans les églises. Hein. On dit souvent chez nous aux Antilles que les églises c'est pour les femmes. Hein. Vous voyez, beaucoup de femmes dans les églises et peu d'hommes. C'est vrai. Vous allez regarder, même dans les églises catholiques, les gens qui y vont, c'est des femmes. Les hommes, c'est rare de les voir aller à l'église parce que c'est devenu quelque chose pour les femmes. Okay? Et donc, on abandonne cela. Donc, parfois, il arrive que dans certains milieux aussi évangéliques, bon voilà, eh bien, on trouve la même chose. Les femmes sont toujours décidées à faire les choses parce qu'il n'y a pas d'hommes pour les faire. Parce qu'ils abandonnent leurs responsabilités. Donc, ce passage est un encouragement, je crois, à ne pas chercher à s'extirper de ce que Dieu a prévu, mais à rester fidèle dans ce que Dieu a prévu pour chacun. Et je dirais que ce que Paul dit ici concernant les femmes, c'est, au verset 15, c'est un encouragement, doit être considéré comme un encouragement parce que ça se termine comme quelque part sur une note triste parce qu'il dit, Adam n'a pas été séduite, mais Ève a été séduite. Elle a été coupable de transgression. Puis il dit, mais, néanmoins, vous voyez, il y a ce contraste qui est établi ici, néanmoins, et après il termine avec, il parle d'Ève, il termine avec les femmes, il dit, voilà, si elles persévèrent, elles seront sauvées. Il y a un avenir de salut, d'accord, par la foi en Jésus-Christ et par l'acceptation, d'accord, de ce que Dieu a prévu, de l'ordre que Dieu a prévu quand tout le monde cherche à vivre de cette manière-là. Voilà, donc je pense que, je vais terminer avec ça, c'est important pour nous de reconsidérer ces choses-là. Je sais que dans beaucoup d'assemblées, on ne fait pas forcément comme nous faisons, mais c'est notre conviction ici que la parole de Dieu désigne les hommes comme les anciens pasteurs et docteurs des églises, dans son église. C'est la conviction que l'on a quand on lit la parole de Dieu, quand on lit en Corinthiens chapitre 14, la même chose. Et c'est, même si ça n'est pas populaire, il nous faut nous soumettre à la parole de Dieu. La parole de Dieu ne dit pas que les femmes ne sont incapables de faire les choses, pas du tout. Elle dit que ça n'est pas la place que Dieu a prévue pour la femme dans ce domaine-là, dans l'Église. Dieu veut que son Église soit ordonnée. Et le lieu où la volonté de Dieu doit se manifester le plus clairement aux yeux du monde, c'est dans l'Église de Jésus-Christ. Et il est important que nous considérions ces choses. Après, je ne dis pas que dans les endroits où les gens pensent autrement, les gens n'aiment pas le Seigneur. C'est pas ce que je ne dis pas ça, d'accord? Mais je dis que il nous semble clairement que la volonté de Dieu, elle est clairement exprimée. Ça n'est pas ce qu'il dit ici, ça n'est pas quelque chose qui est culturel, qui est juste là pour régler un problème ponctuel dans une église. L'ancrage créationnel que l'apôtre, fort que l'apôtre Paul donne au passage, montre que c'est quelque chose que nous devons suivre convenablement. Okay? Quelqu'un disait, si c'est quelque chose qui est culturel, il faut expliquer pourquoi l'apôtre Paul s'appuie sur l'ordre de la création de cette manière-là, hein, et montrer et le montrer clairement qu'on pourrait voilà dire que quelque chose dont l'ancrage est créationnel est quelque chose simplement de comment dirais-je, de local et de culturel. Absolument pas. Donc le Seigneur nous aide dans cela. Je le redis, il y a beaucoup de domaines où la femme peut enseigner auprès des enfants, dans d'autres auprès d'autres dames. Là, on est dans le cadre vraiment du leadership de l'Église. Il faut que nous soyons au clair là-dessus, que nous respections vraiment ce que Dieu a établi comme règle là-dessus. Voilà. Peut-être vous avez une ou deux questions, puisque j'ai terminé un peu plus tôt aujourd'hui, on peut prendre une ou deux questions là-dessus. Ou peut-être une remarque, hein, simplement. On peut partager ensemble une remarque. Oui. Bonsoir.
Je n'ai pas du tout la connaissance de la Bible comme beaucoup ici dans l'Assemblée, mais je voulais juste savoir, est-ce que Jésus, quand lui était donc parmi les hommes, avait donné une voix, enfin un avis sur ce sujet?
Oui, alors, oui, Jésus n'a pas donné un avis sur tout, hein. Mais Jésus, il a dit ceci. Je peux lire dans Jean chapitre 16. Jésus, il a dit ceci. Hein. Il a dit, je vais lire alors ce que je retrouve. Quand il parle, qu'il parle du Saint-Esprit, hein, si quelqu'un m'aide à trouver le passage. Il dit voilà, quand il parle du Saint-Esprit qui annoncera tout ce qui est à moi, oui. Verset 7, Jean 16, 7, c'est ça?
À partir du verset 7.
Oui. Donc, il dit cependant, je vous le dis en vérité, donc Jésus parle à ses disciples avant sa mort, il dit, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je l'enverrai. Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, le jugement, etc. C'était pas exactement celui que je cherchais, mais c'était un peu plus loin, ou avant. Verset 13, merci. Ouais, c'est peut-être celui-là. Il dit, verset 13, chapitre 6, ouais, un peu plus loin donc. Il dit, quand le Consolateur sera venu, donc Jean 16, 13, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Okay? Et donc Jésus est en train de dire que l'Esprit va venir sur... Il parle à ses disciples, hein? Il ne parle pas à tous les croyants ici, il parle à ses disciples. Il est en train de dire que l'Esprit de Dieu va venir sur eux et va leur enseigner, va leur donner tout ce qu'ils doivent écrire, ce qu'ils doivent dire qui est de lui. Et c'est pour cela que les apôtres, ils ont écrit... Hein, après, ils disent des choses qu'on n'a pas entendu Jésus dire. Ce qu'on sait que de Jésus, c'est ce qu'ils ont rapporté. D'accord? Et donc, ils disent les choses que le Saint-Esprit leur a enseignées de la part de Jésus-Christ, de Dieu lui-même. Et ils écrivent. L'apôtre Paul est un apôtre aussi. Et il dit, dans 1 Corinthiens chapitre 14, je le lis rapidement, parce que c'est en plus dans le contexte où il parle de l'Église et des... on n'a pas lu ce passage fort, hein, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais le lire encore. Il dit chapitre 14, verset 34, parce que c'est le même contexte ici avec les femmes. Il dit que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises comme le dit aussi la loi. Vous voyez là, la loi de Moïse, hein. Donc, on pense qu'il fait allusion encore là, ici, à la création. Si elles veulent s'instruire de quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole est sortie, ou est-ce vous seul, à vous seul qu'elle est parvenue? Et verset 37, c'est le verset que je voulais. Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que ce que j'écris est un commandement du Seigneur. Et donc, ce que Paul écrit, il dit, ce n'est pas ce que j'écris de moi-même, ce que j'écris, c'est un commandement du Seigneur. Alors, on ne peut pas opposer, et c'est vrai que parfois il y a des personnes qui ont tendance à le faire, oui, on lit cela, mais ça c'est Paul qui dit cela. Mais Jésus, par exemple, il n'a pas dit cela. Ok? L'apôtre Paul, toute écriture est inspirée de Dieu. Ce que l'apôtre Paul dit ici, il dit c'est le commandement du Seigneur, et donc c'est l'autorité de la parole de Dieu. Ce que l'apôtre Paul enseigne, c'est ce que Jésus-Christ aussi enseigne. D'accord? Même si lui, il l'a pas dit directement. C'est comme ça qu'il a choisi de faire. Jésus ne s'est pas exprimé sur tout. D'accord? Il a choisi des apôtres qu'il a inspirés et qui ont écrit tout ce qu'ils doivent écrire pour notre connaissance et pour notre sanctification et pour notre édification. Ça, c'est important de considérer cela. Okay. Voilà, on va peut-être prier, parce que je ne veux pas en tenir plus longtemps. Seigneur Jésus, nous te remercions encore pour ta parole et nous te prions que tu nous aides par ton esprit à comprendre encore davantage. Et je sais que ce verset que nous avons considéré n'est pas forcément facile. L'apôtre Pierre même dit que dans l'Écriture, l'apôtre Paul dit des choses qui sont difficiles. Mais Seigneur, que ton esprit nous aide à saisir ce que nous devons saisir et surtout que tu nous donnes des cœurs soumis pour ce qui est clair. Parfois, nous avons tendance à nous attacher à ce qui est difficile ou parfois difficile à comprendre pour mettre en doute ta parole, mais nous devons apprendre à nous attacher à ce qui est clairement exprimé. Et nous avons vu des commandements qui sont clairement exprimés, que tu nous donnes de les respecter, que ce soit pour les hommes, que ce soit pour les femmes, parce que tu es un Dieu d'ordre. Je te prie que tu nous diriges et que même si le monde autour de nous brandit le contraire de ce qui est dans ta parole, même si c'est devenu ce qui est contraire à ta parole est devenu la coutume partout autour de nous, donne-nous le désir de nous soumettre à ce que toi tu enseignes et ne pas avoir honte de la vérité contenue dans ta parole. Seigneur, dirige-nous, remplis nos cœurs de soumission, d'adoration à ton égard pour la gloire de ton nom. Amen.